en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Je voudrais, Madame le Ministre, vous remercier de votre présence et vous dire au nom de notre Académie des Beaux-Arts tout le plaisir que nous avons à vous recevoir et à faire de cette séance ordinaire une séance extraordinaire. Nous sommes impatients de vous entendre. Vous avez choisi comme thème l'art et la nature, art et nature, voici un thème qui nous est cher ici à l'Académie des Beaux-Arts, puisque l'homme et l'artiste qui est en lui entretient un dialogue constant depuis des millions d'années avec la nature, et cela a commencé avec la grotte Chauvet jusqu'à nos jours. Ça a pris des formes et des intensités différentes en fonction des époques, mais en tout cas, ce thème est passionnant et merci de l'avoir choisi. Je vais céder la parole à notre perpétuel, notre jeune et récent secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Gérard, afin de vous accueillir.
Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, chère Ségolène Royal, d'abord un grand remerciement d'avoir donné suite à cette proposition que je vous avais faite il y a 2 mois. Vous savez, souvent, quand on rencontre des personnages importants et qu'on leur propose quelque chose comme ça, ils vous disent un oui de courtoisie. Et puis, malheureusement, les choses après ne se concrétisent pas. Et j'avais tout de suite compris dans la façon dont votre œil pétillait que l'idée vous intéressait. Alors, si on était dans une situation normale, je vous dirais que nous sommes heureux de recevoir Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. J'évoquerais une carrière que finalement tout le monde connaît et admire, mais je dois vous avouer que ce qui j'ai trouvé passionnant, c'est que à la fois, il est important que notre Académie renoue des liens forts avec les grands responsables, avec bien sûr des grands responsables politiques de haut niveau, mais vous êtes sincèrement, pour moi, je crois pouvoir dire pour nous, tout à fait au-delà de la politique. Ça ne vous empêche pas d'être une femme engagée, mais on a bien compris que maintenant vous êtes devant des problématiques planétaires. On espère d'ailleurs tous vivement que dans des échéances prochaines, vous vous retrouverez dans des grandes responsabilités d'organisation internationale. Et puis, vous êtes un personnage totalement atypique. Vous avez su créer, à des moments très importants de notre histoire, y compris lors d'une campagne présidentielle il y a une dizaine d'années, plus qu'un enthousiasme, un véritable élan populaire. Je crois que ça tient à votre personnalité, à votre ouverture d'esprit, à une qualité d'écoute qui est tout à fait exceptionnelle et qui fait que, bien, on a envie de vous parler, on a envie de vous entendre et on sait que lorsqu'on vous parle, vous écoutez. Je trouve qu'en plus, vous avez des choix en tant qu'auteur, cette fois-là, très touchants. J'ai vu que vous aviez ce livre, Ma plus belle histoire, c'est vous, qui est une belle façon de parler. Vous avez un livre qui, je crois, sort demain, m'a dit votre cabinet, qui est le Manifeste pour une justice climatique, ce qui touche tout le monde ici. Et puis, enfin, une dernière chose, c'est que vous semblez avoir un petit faible pour nous, car en l'espace de même pas 2 mois, vous avez honoré notre cher Sébastien Salgado, qui est là, Jacques Perrin, qui vous envoie 1000 bonnes amitiés, qui est aux États-Unis, et le globe-trotteur Yann Arthus Bertrand, qui lui-même est encore plus loin. Alors, en notre nom à tous, je tiens vraiment d'abord à vous remercier, vous dire en plus qu'on va vous écouter avec un grand intérêt et vous rassurer tout de suite sur une chose, c'est que les questions sont des questions de partage, c'est un échange et vous êtes ici devant des gens qui sont à l'écoute et qui n'ont qu'une envie, c'est que les sujets importants de notre société puissent avancer grâce à vous, mais aussi grâce finalement à l'extraordinaire variété de compétences qu'il y a en face de vous dans toutes les disciplines qui sont ici représentées et qui peuvent, je crois, être d'une vraie aide par rapport à ceux qui ont à prendre des décisions qui vont ensuite, ma foi, avoir une influence pendant des années et des années sur notre vie à tous. Alors, encore une fois, à notre nom à tous, mille merci. Je vous souhaite une belle intervention et je vous cède la parole avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, cher Patrick de Carolis, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher Laurent Petit-Girard, Mesdames et Messieurs les académiciennes et académiciens, Mesdames et Messieurs, d'abord, laissez-moi vous remercier pour votre invitation et de me consacrer cette séance exceptionnelle. Je suis très honorée de me retrouver devant vous pour vous parler d'art et de nature, d'art et de climat. Et je voudrais vous dire tout d'abord que dans le combat climatique que la France a mené et a réussi avec la COP21 et avec la COP et avec l'accord de Paris sur le climat, la COP21 que j'ai l'honneur de présider, eh bien, j'ai observé que le message des artistes a pris une place importante et je voudrais vous dire aujourd'hui que cette place ne demande qu'à grandir. Alors, bien sûr, dans le champ de la connaissance du climat, ce sont d'abord les scientifiques qui se sont mobilisés. D'abord les climatologues, les glaciologues, les écologues, les biologistes, puis ensuite les philosophes, les historiens, les anthropologues, les sociologues, les économistes et bien d'autres encore, parce que toutes les disciplines sont désormais de la partie. Et nous leur devons les travaux scientifiques, notamment les travaux du GIEC, qui nous ont permis de prendre la mesure la plus exacte de l'impact des activités humaines sur le climat, sur les menaces qui pèsent sur la nature et sur le recul de la biodiversité, afin de nous aider à mieux anticiper ce qui risque de se passer si nous n'agissons pas ensemble rapidement. Mais les artistes, les plasticiens, les écrivains, les cinéastes, les créateurs de toutes les disciplines, je dirais même les musiciens, se sont également emparés de ces sujets et souvent avec un temps d'avance. Ils ont d'ailleurs été nombreux à s'impliquer dans le cadre de la préparation du sommet de Paris, dont la dimension artistique et culturelle a été dès le début à mes yeux essentielle, et à joindre leur voix à toutes celles de la société civile qui se sont exprimées haut et fort à cette occasion. Car ce qui s'est joué en décembre 2015 ne devait pas rester l'affaire des négociateurs spécialistes et des gouvernements, mais bel et bien de tous les citoyens. Et cette mobilisation des arts est une chose précieuse et heureuse, car si la rationalité scientifique est nécessaire pour comprendre la nécessité de remettre radicalement en cause nos façons de voir et de faire, eh bien sans l'imaginaire, sans l'émotion, qui sont les domaines de l'art, la raison est impuissante à rendre désirable cet autre monde possible dont l'art permet une approche sensible. C'est Wim Wenders qui disait que pour changer le monde, et c'est bien l'objectif de la conférence de Paris sur le climat, nous devons réussir à changer le monde. Il ajoutait, il faut changer le regard que nous portons sur le monde. Et donc, pour pouvoir changer le regard sur le monde, il faut d'abord le représenter. Car l'esthétique n'est pas une conséquence de la politique. Représenter le monde, cela crée un sens commun qui mobilise, qui emporte, qui agrège les énergies. C'est un début, c'est une ouverture, ce n'est pas une conclusion. Et l'art imite la nature, disaient Aristote et les Grecs. C'était signifier avec sagesse que l'esprit humain avait un enclos, une mesure, une cadence, celle des limites de la création des dieux. Et rien n'était plus beau à leurs yeux qu'une mimésis, la doublure, par l'art, de la perfection de la nature. Kant, à travers les notions de sublime, indique que rien ne peut être plus grand que l'esprit humain. Et ce que ce dernier aime éprouver dans le vertige des glaciers, des abysses ou des montagnes, c'est son propre infini, celui de la raison humaine. Et au final, les esprits des Lumières penchèrent pour un renversement de l'axiome. La nature imite l'art. Et cela est vrai de bien des façons, car désormais, on ne peut plus voir les nymphéas sans penser à Monet, ni les tournesols sans songer qu'ils prennent la pose pour stimuler un Van Gogh. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la magnifique exposition actuellement au Grand Palais sur les jardins. De Dürer à Cézanne, de Monet à Autoniel, la nature sert de support, de prétexte, de matrice à fondre son imaginaire, à révéler la confusion, la mélancolie d'un esprit ou au contraire le pur mystère des formes. Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité. Cette phrase magnifique de mon ami le paysagiste Gilles Clément que j'ai inscrite sur le fronton du ministère de l'Environnement. Gilles Clément, qui réussit même à sublimer un jardin d'orties, comme j'ai pu le constater lors de la Biennale des Arts de Mel dans les Deux-Sèvres. Oui, pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et d'éternité. Et souvent, on a le sentiment que devant de tels tableaux, on a le sentiment de contempler un fragment de cosmos, une trace de grandeur, miraculeusement encadrée sur une toile. À ce titre de vecteur de beauté, de messager d'éternité, l'art fait comprendre à chacun ce que nous avons à perdre si on laisse la nature être saccagée, être dévastée, être consommée aux mains de tous les prédateurs auxquels elle se livre. Il fait voir ce qui est en péril, ce que même nos plus grands génies ne peuvent atteindre en termes de perfection. La beauté, c'est-à-dire la nature, pour détourner un mot célèbre de Spinoza. On ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles, mais c'est bien parce qu'on les désire qu'elles sont belles, disait-il. Et ce n'est pas réducteur de le dire, l'art a un rôle latéral d'émerveillement qui est le premier pas vers l'engagement. Oui, la nature est l'objet fétiche, légitime des représentations. C'est flagrant, évidemment, dans l'autre magnifique exposition qui a lieu en ce moment à Paris, au musée d'Orsay, à propos des paysages mystiques. Extraordinaire. De la Bretagne à la Polynésie, par exemple, Gauguin y montre une force tellurique, la splendeur stupéfiante des couleurs et des nuances, mais aussi la douceur et la poésie des hommes et des femmes qui habitent ces paysages. Car l'artiste ne se contente pas de représenter avec fidélité ou avec ressemblance. Et l'on a peu à peu effacé cette conception du tableau comme simple miroir promené le long du chemin, selon la formule de Stendhal. En effet, il faut le dire, quand il représente la nature, l'artiste y cherche toujours quelqu'un. Lui-même, c'est le romantisme et l'expressionnisme, Dieu, bien sûr, et je pense à cette autre œuvre exposée à Orsay, « Croire aux étoiles bleues » de Georgia O'Keeffe, qui a saisi avec une rare vérité les grands déserts ocres et rouges sur lesquels tombe le crépuscule, la lumière des espaces infinis de l'Amérique, tous ces morceaux de roc et d'horizon qui font songer à cette phrase du philosophe naturaliste Emerson. En présence de la nature, l'homme est traversé par un ravissement absolu malgré ses peines véritables. Mais l'œuvre que j'ai trouvée la plus stupéfiante dans cette exposition d'Orsay, c'est « La nuit étoilée » de Van Gogh. Extraordinaire. Et qui rejoint d'ailleurs cette belle phrase de l'astrophysicien Hubert Reeves, « L'univers est une machine à faire de la conscience ». Donc je vous invite à aller voir « La nuit étoilée » de Van Gogh et de penser à cette phrase d'Hubert Reeves, « L'univers est une machine à faire de la conscience » et vous verrez que c'est parfaitement raccord. Alors l'artiste cherche Dieu dans la nature. Il s'y cherche, bien sûr, mais pour de tels tableaux, le sujet secret, le destinataire dissimulé, l'absent pourtant présent, c'est le contemporain, l'autre homme, l'autre femme, le spectateur contemporain. Et loin d'être gratuit, sans être non plus asservi à un but ou à je ne sais quelle fin, l'art, et même l'art qui prend pour sujet la nature, et peut-être surtout l'art prenant pour sujet la nature, cet art travaille pour son époque, travaille pour les hommes et pour les femmes d'aujourd'hui, travaille pour changer les esprits et les mentalités de maintenant. Chacun connaît cette légende grecque de l'invention de la sculpture, et par là de l'art tout entier. L'histoire de la fille du potier Dibutades, qui ne pouvant se résoudre à la perte de son amant, dessina son profil par ombre chinoise au charbon de bois. Puis Dibutades, son père, appliqua de l'argile sur les contours et obtint ainsi un masque humain. L'art et la nature entremêlés pour sauver ce qui est irréparable, la perte et la destruction, tressés ensemble pour restaurer la concorde, le lien entre les générations, la présence au monde, voilà un beau message qui vaut pour le présent, quelques 2000 ans après, et qui vaut pour aujourd'hui, pour le combat climatique. On dit souvent en effet que savoir, c'est pouvoir. C'est vrai, mais pouvoir n'est pas forcément vouloir et pas forcément oser, pas forcément agir. J'en sais quelque chose sur tous ces combats. Et si nous avons jusqu'à un certain point gagné la bataille des idées contre le climato-scepticisme, contre ceux qui nient la responsabilité humaine dans la dérive climatique, il nous reste encore à gagner la bataille de l'action. Nous y avons partiellement réussi. Mais pour faire appliquer l'accord de Paris, mais aussi plus largement en accélérant la mise en mouvement de toutes nos sociétés et surtout l'invention de ce nouveau monde qui ne considérera plus la nature, l'eau, la terre comme des biens gratuits. L'information, si précise soit-elle, et le partage des connaissances, si nécessaire soit-il, ne peuvent y suffire. La volonté politique y a sa part, les nombreuses lois et décisions aussi, qui répondent avec loyauté et avec ambition à ce devoir. Mais cela non plus ne suffit pas, car le pouvoir d'agir a besoin aussi du désir d'agir et d'un nouvel espoir qui s'enracine dans une véritable révolution des esprits et des sensibilités. C'est là que l'art nous est indispensable. Non pas en vertu d'une conception étroitement instrumentale qui en ferait un simple adjuvant didactique, mais parce que la beauté de ces narrations émotionnelles, des expériences sensorielles auxquelles les œuvres nous convient, de ces langages capables de rêver et de réveiller le monde. D'en donner à voir les fragilités, mais aussi les richesses potentielles, les évolutions possibles, ont le pouvoir de nous faire ressentir combien notre planète est une, combien son climat est un bien commun de l'humanité. Et quelles énergies latentes nous pouvons activer, non seulement pour regarder autrement notre monde commun, mais aussi pour défricher de nouvelles pistes, pour imaginer de nouveaux équilibres, de nouvelles harmonies, pour prendre pleinement conscience de notre place dans la chaîne du vivant, pour traiter la nature en partenaire et pour éprouver la force de ce qui nous relie les uns aux autres. Bachelard disait que pour qu'une chose existe dans notre âme, il faut qu'elle soit créée poétiquement. Ainsi, les artistes nous alertent et nous éclairent. Proust disait d'ailleurs qu'après Renoir, personne ne pouvait plus voir une femme sans penser à ses peintures. Eh bien, grâce à des photographes, comme d'éminents photographes ici présents, des plasticiens, des sculpteurs et des vidéastes, la réalité du changement climatique ne nous est plus étrangère. Et Thomas Pesquet, qui m'a prêté cette belle photographie pour la couverture du manifeste que vous avez bien voulu évoquer, cette photographie qu'il a prise depuis la station orbitale, depuis l'espace, est d'une certaine façon aussi un témoin artistique de sa planète. Et les artistes, et c'est tout le sens de mon message, nous rassemblent et nous transforment. Leur vraie ressemblance avec la nature, avec ces paysages qu'ils peignent à loisir, c'est que, avec patience et grandeur, ils dessinent la trame de nos pensées, ils changent notre état d'esprit, ils s'imposent, ils rectifient notre regard. Ils sont donc une source de commun de vie et d'espoir, en nous donnant accès à une pensée et à une perception du dérèglement climatique qui mobilise nos imaginaires et qui fortifie notre désir d'avenir. Et je voudrais conclure en citant ces quelques vers d'Édouard Glissant. Le désastre ou la crise sont des opportunités. Ce sont des rigidités et des impossibles qui se voient bousculés, des improbables qui se voient soudainement sculptés de nouvelles clartés, un à présent qui s'ouvre d'emblée, à présent pérenniser une lumière où rupture et brisure ont ouvert des possibles. Je vous remercie.
Madame le ministre, merci beaucoup. Voilà un propos, une entrée en matière qui va nourrir notre dialogue. Vous avez évoqué la mobilisation des arts dans le domaine de l'environnement. Vous avez parlé, on pourrait dire, de cette même pièce avec ses deux faces, l'une où l'art imite la nature et l'autre face où c'est la nature qui imite l'homme. Vous avez cité deux grands peintres, dont Monet Et ici, Monet est très important pour nous, puisque nous avons le premier fonds de Claude Monet au sein du musée Marmottan-Monet. Vous avez évoqué également la place de l'artiste dans notre monde, dans le monde, dans l'environnement, dans le paysage, mais aussi dans la société. Cet artiste qui nous éclaire, qui nous alerte, vous avez dit, et qui nous rassemble. Voilà un propos et un discours qu'on aurait aimé entendre hier soir, par exemple, sur nos chaînes de télévision, dans la bouche d'un des 11 prétendants à la charge suprême. Comment expliquez-vous, Madame la Ministre, qu'un tel propos, qu'une telle vision de l'art, de l'artiste, du rôle, de la culture en général, ne soit pas aussi présente aujourd'hui dans le débat, présidentiel, c'est-à-dire dans le plus haut débat qui demain prépare l'avenir.
Oui, vous avez raison. C'est une question difficile, d'ailleurs. Je ne sais comment y répondre, mais il y a deux grands absents. D'ailleurs, c'est pas un hasard parce que ça rejoint peut-être le sujet d'aujourd'hui. L'environnement et la nature aussi ont été totalement absents, et la culture, c'est tout à fait flagrant. Or, lorsque l'on considère qu'une échéance présidentielle, c'est finalement savoir si on a la capacité de s'inscrire dans son histoire, d'en prendre le meilleur, bien évidemment, et de voir comment on se projette ensemble, avec tous les apports successifs et divers, bien évidemment, l'identité culturelle est absolument cruciale. Et je dirais l'identité paysagère aussi, qui a forgé notre pays, est absolument aussi essentielle. Espérons que dans les jours qui viennent, nous pourrons surmonter cette frustration en entendant des propos peut-être plus éclairés sur ces sujets.
Paul Andreu.
Oui, moi, je voudrais aborder un sujet dans lequel je suis ignorant. C'est celui des paysages. Finalement, bon, à mon âge qui commence à s'avancer, on a beaucoup de souvenirs des paysages de son enfance, de sa vie. Et on se dit que beaucoup de choses sont en train de changer très très vite. Est-ce qu'il n'y a pas... Qui est responsable des paysages? Qui finalement prend le soin du paysage? Est-ce qu'il n'y a pas une organisation à trouver dans les modes d'exploitation agricole, et donc avec les gens qui de l'INRA, des gens qui savent comment et qui font des recherches dans ce domaine-là, le domaine social avec le destin des travailleurs de la terre, pour parler des paysans. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver là, en France, mais je pense en Chine où je suis beaucoup, encore peut-être davantage, pour trouver une organisation sociale et une véritable définition, en même temps que de producteurs, que les paysans soient des producteurs, et en même temps les sauveurs ou les gardiens, je ne sais comment les appeler, du paysage.
Merci pour cette belle question. C'est vrai que la question des paysages, d'abord, est très liée aussi à la question climatique, parce qu'on voit la disparition des paysages sous le coup du réchauffement climatique. Et c'est ce qui m'a conduit, d'ailleurs, dans la loi de reconquête de la biodiversité, à ajouter la question des paysages. Alors, vous demandez à qui appartient le paysage. J'ai envie de vous répondre, le paysage, il appartient d'abord à celui qui le regarde et qui le fait exister dans son regard. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ont commencé les principaux combats contre la destruction des paysages. On a connu dans les années 60-70 des périodes dramatiques de remembrement sauvage dans nos campagnes, avec des formatages d'ingénieurs qui n'ont pas compris qu'en arrachant les haies ou qu'en reformatant les cours d'eau, on allait provoquer des inondations, des ravinements de terrain, et que ce que l'agriculture croyait gagner d'un côté en massacrant ses paysages, elle allait rapidement le perdre de l'autre côté, en épuisant les sols et en détruisant l'équilibre des cours d'eau par rapport aux sols cultivés. Et aujourd'hui, je crois que le regard sur le paysage, il a changé. Les ingénieurs ont été formés autrement. L'agriculture bio monte en puissance. Et cela va plutôt dans le bon sens. Mais je dirais qu'à l'échelle planétaire, les choses ne sont pas aussi positives. On voit avec la culture d'huile de palme la déforestation dramatique en Indonésie, par exemple. Donc on voit aussi que les prédateurs du paysage continuent malheureusement leur œuvre à l'échelle planétaire et que la sonnette d'alarme doit être tirée également. C'est ce que nous avons fait aussi pendant la conférence de Paris sur le climat en reconnectant la question de l'énergie et la question de la protection des paysages. Et puis je voudrais peut-être ajouter qu'il y a une nouvelle prise de conscience sur les paysages sous-marins, dont on ne parlait jamais. Et vous voyez, quand on voit une falaise, par exemple dans le parc des Calanques, cette falaise, elle continue encore plus profondément qu'elle ne s'élance vers le ciel. Et la prise en compte et la protection des paysages sous-marins a été une de mes principales préoccupations. C'est la raison pour laquelle, en 3 ans, j'ai réussi à protéger l'espace marin, en passant de 4% du territoire marin français protégé à plus de 32% aujourd'hui, en créant des parcs marins, le dernier étant celui que j'ai créé, étant le parc marin du Cap Corse, en étendant la réserve des terres australes françaises, et en faisant le plus grand parc marin mondial, en créant une zone de protection marine autour de l'atoll de Clipperton, et là, récemment, en créant également un parc marin en Martinique. Alors, au début, c'est difficile parce qu'il y a des oppositions. Les pêcheurs pensent qu'ils vont moins pêcher. Je dis non, vous n'allez pas moins pêcher, vous allez mieux pêcher. Et la surpêche, ou la destruction du corail, ou la destruction des herbiers sous-marins, constituent aussi des atteintes terribles à la protection de l'environnement, parce qu'il y a une complémentarité entre la mer et la terre. 78% de la surface de la planète est une surface bleue, on l'oublie souvent, 93% de la biosphère est marine. Et donc cet aspect de la protection de la planète qui avait été totalement oublié pendant 25 ans des négociations climatiques, nous l'avons réintégré pour la première fois aux discussions climatiques de l'accord de Paris sur le climat. Et ça, je crois que c'est là aussi un acquis et un champ de la connaissance immense.
Patrick ?
Oui, Aymeric Zublena.
L'une des premières manifestations de l'attention portée au paysage, c'est le tracé des autoroutes. Bernard Lassusse, qui est un paysagiste qui a mon âge, a beaucoup participé à l'inscription avec les ingénieurs des ponts et chaussées. Moi-même, à un moment donné, j'étais architecte conseil auprès de la direction des routes. Indiscutablement, je trouve que la façon dont les autoroutes, pardon, mais c'est... D'habitude, c'est fermé les rideaux, là. Mais bon, je suis en plein soleil. Donc là, il y a eu indiscutablement, je crois, un progrès qui a été fait. Je voudrais ramener votre propos à un problème qui est celui, je suis architecte, de l'urbanisation.
Oui.
J'ai posé la question parce qu'on a eu un exposé un jour ici sur le Grand Paris. L'intervention des artistes, comment est-elle prévue dans le cadre du Grand Paris. Des paysagistes, je pense que là, il y en a. Mais je voudrais faire une... C'est très très bien, il faut défendre la nature, enfin personne ne peut aller contre. Mais je dis, lorsque, je ne sais pas si c'est 30 ou 40% ou 50% de la population mondiale terminera dans les villes, il y a là indiscutablement un problème, c'est de voir arriver à concilier comment on peut accueillir d'une façon décente ces populations qui quittent la nature, si je peux dire, pour arriver dans l'urbanité. C'est pas facile, moi j'ai travaillé sur les villes nouvelles, c'est pas facile, il y a une façon, c'est de protéger au maximum les espaces verts qui existent, essayer de les harmoniser avec l'urbanisation, c'est évident, mais c'est pas suffisant. Et je m'explique. Si on avait eu une attitude, je n'ai rien contre l'écologie, je pense qu'il faut défendre la nature, ça va être... C'est-à-dire, si on avait dit, il ne faut surtout pas toucher aux îlots quasi émergés du delta de Venise, on n'aurait pas construit Venise. Ça veut dire que il y a probablement une façon d'urbaniser qui exalte un site, qui s'harmonise avec le site et qui, dans quelques cas exceptionnels, arrive à créer des sites urbains en harmonie avec la nature et des lieux qu'on vient visiter. L'une des grandes difficultés de notre époque, et je fais partie de ceux qui ont été confrontés à ça, c'est que, à part les architectes et quelques politiques ou quelques qu'est-ce qu'industriel, qui va visiter les villes nouvelles, qui va visiter le Paris d'Haussmann, alors qu'on va visiter les anciens quartiers, on va visiter le 10. Je crois que la grande difficulté, c'est comment arriver à associer, j'ai pris l'exemple de Venise, parce qu'il me paraît intéressant, c'est un lieu, le delta du Pô, donc indiscutablement un espace probablement magnifique, avant qu'on y construise, et qui est exalté par l'intervention d'artistes, de mécènes et de politiques. Voilà, je ne sais pas, je suis peut-être un peu à côté de la question.
Non, merci beaucoup de cette question. Vous posez en fait le problème de la réticence ou de la résistance à la construction, c'est-à-dire de cette opposition frontale entre les protecteurs de la nature et les aménageurs. Et personnellement, je pense que s'il y a eu cette opposition frontale, c'est parce qu'il y a eu énormément d'abus et qu'on a massacré beaucoup d'espaces naturels en France. Regardez par exemple le littoral. Encore, le littoral français est à peu près protégé parce qu'il y a aussi à un moment une réaction avec la création du conservatoire du littoral. Et quand vous allez sur le littoral espagnol ou sur d'autres territoires, il y a une catastrophe quand même dans la construction de ce qui a été fait. On a vu, j'ai évoqué tout à l'heure, les catastrophes dans le domaine agricole avec les remembrements sauvages. On en revient maintenant, il faut replanter les haies, on redonne de la liberté aux cours d'eau parce qu'on s'est rendu compte qu'à trop vouloir... bousculer, brutaliser la nature, finalement un jour ou l'autre on en payait les conséquences. Donc il faut, vous avez raison, respecter ce juste équilibre entre la capacité d'aménager et la capacité de protection. Je le vois d'ailleurs dans le secteur dont j'ai la charge, parce que pour la construction par exemple des éoliennes, tout le monde demande des énergies renouvelables, et dès que l'on se met à la construction d'éoliennes ou de parcs photovoltaïques, hop, on a des protestations, des recours, et donc des années de travaux, et donc des entreprises qui se découragent et qui ne veulent plus investir dans les énergies renouvelables dans certains territoires. Donc la solution, je pense, c'est la démocratisation des procédures et la simplification des procédures. Et le hasard fait bien les choses que ce matin en Conseil des ministres, donc j'ai finalisé la réforme de l'autorisation justement d'aménagement par rapport à la protection de la nature, en fusionnant l'ensemble des procédures, en simplifiant ces procédures, en unifiant le contentieux, en désignant un seul tribunal compétent, celui de Nantes, donc qui pourra ainsi se spécialiser et régler tous les problèmes de contentieux de protection de l'espace, de protection des équilibres naturels par rapport à la capacité de construire. Mais bien évidemment, il faut pouvoir continuer à construire tout en protégeant les équilibres naturels. Et en ce qui concerne la question de l'urbanisation, je pense que l'avenir des villes est dans la végétalisation des villes. On a observé qu'en revégétalisant tout un quartier, par exemple les toits végétalisés, les façades végétalisées, les replantations, on pouvait diminuer de 5 degrés la chaleur dans les îlots urbains qui vont être les premiers îlots urbains à souffrir du réchauffement climatique. Il y a par exemple un autre gros problème sur Paris qui sont les toits en zinc, donc qui font partie du patrimoine parisien, mais qui créent des phénomènes de chaleur considérables, et un jour, il va falloir évoluer. On voit aussi qu'aux abords des monuments historiques, très souvent, l'architecte des bâtiments de France ne donne pas les autorisations pour mettre des panneaux photovoltaïques. Mais comme vous disiez très justement, si les mêmes règles avaient été présentes au moment de la construction de Venise, on n'aurait jamais construit Venise. Alors souvent, je dis aux architectes des bâtiments de France, près des églises romanes, je dis, mais si au XIe siècle, il y avait eu des panneaux photovoltaïques, il y aurait eu des panneaux photovoltaïques sur les églises romanes. Alors bien sûr, il faut les installer intelligemment, et préserver aussi la visibilité et la pureté des sites. Mais c'est vrai qu'il faut aussi souvent faire évoluer les conservatismes pour trouver là aussi un juste équilibre entre la transition énergétique dont on a besoin et la nécessité d'aménagement qu'il faut poursuivre, bien évidemment, mais la protection de ces espaces naturels remarquables, sans lesquels d'ailleurs les villes perdraient également leur identité et surtout leur lien avec la nature.
François Bernard Mache.
Beaucoup de choses que vous avez dites me concernent, et c'est un peu paradoxal parce que je suis compositeur et la musique a longtemps passé pour le seul art qui n'entretenait avec la nature que des rapports extrêmement distants, et qui entretenait au contraire avec le langage humain des rapports très étroits, justement dans la mesure où le langage était l'essentiel de l'homme et qui ne se rencontrait pas dans la nature. Alors, je sais bien qu'il y a eu les pastorales de toutes sortes, et on les a, pas seulement bien avant Beethoven, on a admis la pastorale non pas comme une représentation de la nature, mais comme une représentation des sentiments que l'homme éprouvait au contact de la nature. C'est-à-dire que la musique est d'emblée, pendant des siècles, a été, dans notre civilisation, extrêmement soupçonneuse à l'égard de tout ce qui était naturel. C'était considéré comme ou bien superficiel ou bien vulgaire de faire appel à des sons naturels, de les évoquer, même si ça existait largement depuis le Moyen-Âge et même avant. Alors, un terme m'a intéressé dans ce que vous avez dit, c'est le terme de partenaire. Parce que si la nature est un partenaire, ça veut dire que c'est tout de même pas la même chose qu'un parent. Ça veut dire que l'homme reste tout de même quelque chose qui est en contact avec la nature et qui essaye de s'arranger avec la nature, mais qui n'en fait pas partie. Or, si la musique représente un art de l'intériorité, et qui n'a jamais eu en effet de modèle aussi évident que les modèles visibles pour les peintres, c'est parce que peut-être ce qui agit en elle, ce sont des lois naturelles en partie, et pas seulement les lois conventionnelles du langage. Et ce qui m'intéresse, mais je suis assez minoritaire dans cette approche de la musique, ce qui m'intéresse, c'est justement la partie naturelle de l'acte de composer avec des sons. Partie naturelle, c'est-à-dire quelque chose qui ne résulte pas d'une construction artificielle, mais d'un besoin instinctif, en quelque sorte, parce qu'il y a dans le cerveau humain un certain nombre de circuits pré-câblés qui produisent des résultats. Et c'est ces circuits qui expliquent qu'on rencontre dans des musiques qui, historiquement et géographiquement, n'ont jamais été en contact, des traits communs et qui expliquent la possibilité aussi d'hybridation et de métissage entre des musiques au départ tout à fait étrangères. Alors, je sais bien que la musique est marginale pour la préoccupation de la nature et que je défends des positions qui sont loin d'être admises par tout le monde, mais tout de même, je voudrais souligner le fait que beaucoup d'anthropologues, maintenant, considèrent qu'on ne peut pas mettre l'humanité en dehors de la nature, que ce soit pour l'exploiter ou pour eux-mêmes et faire un effort de s'y couler. L'homme est aussi une part de la nature. Et il y a dans sa pensée un certain nombre de phénomènes qui, au-delà de sa liberté créatrice, le conduisent à suivre un certain nombre de routes, à lui de ne pas en faire des ornières. Je voudrais savoir un peu votre sentiment à ce sujet.
Merci de votre question. C'est vrai que de la pastorale de Beethoven aux quatre saisons de Vivaldi, la musique est très présente. Et j'ai beaucoup aimé votre idée là que vous venez d'exprimer sur l'hybridation des musiques, avec cette singularité qu'il y a en effet à retrouver parfois des sons concordants dans des musiques venant de territoires très éloignés les uns des autres. Et au fond, la seule hypothèse, effectivement, c'est qu'ils se soient inspirés des sons de la nature, et donc qu'on les retrouve, même si ce ne sont pas les mêmes sous toutes les latitudes. Je voudrais peut-être évoquer là aussi une exposition que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, peut-être certains d'entre vous l'ont-ils découverte, sur le Grand Orchestre des Animaux à la Fondation Cartier. C'est une exposition tout à fait remarquable, qui a aussi quelque chose à voir avec le réchauffement climatique, avec la destruction de la nature, parce que des chercheurs ont observé, en se positionnant sur les mêmes lieux pendant une dizaine d'années, au bord d'une rivière, dans une forêt, ils ont observé, ils ont enregistré, y compris avec des ultrasons, tous les sons de la nature. Et ces sons de la nature ont dramatiquement été réduits. Et ça rappelle d'ailleurs ce très beau livre de Rachel Carson, qui est la première grande écologiste avant même que le nom n'existe aux États-Unis d'Amérique, qui a écrit ce livre magnifique sur le printemps silencieux, où elle explique justement que la destruction de la nature se mesure d'abord par la suppression des sons. Et c'est absolument dramatique lorsque vous assistez à cette suppression des sons dans un raccourcissement de l'histoire, parce qu'on vous fait entendre les sons en quelques minutes sur les 10 années qui se sont écoulées. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est de constater que quand vous êtes dans une forêt, il y a soit la déforestation totale, où effectivement ensuite on n'entend plus rien, ni les insectes, ni les oiseaux, ni les reptiles, ni le bruit des feuilles, etc. Mais pire que ça, lorsqu'il y a des exploitations forestières qui ne sont pas exploitées avec une attention de développement durable, où vous avez par exemple des suppressions d'arbres répartis dans la forêt, vous avez la même suppression des sons, c'est-à-dire le même effondrement des sons, même si ce sont seulement des poches d'arbres qui ont été retirées de la forêt. Ce qui veut bien dire, en effet, que tous les sons se confondent et se répondent, c'est-à-dire que le son des oiseaux va correspondre au son des insectes, c'est parce que l'oiseau aura trouvé un insecte à manger qui va être content et donc il va chanter, que ses oisillons vont repérer le son des feuilles, donc ils vont savoir que leur mère revient pour les nourrir parce qu'ils auront entendu un certain son par rapport au vent au son que fait le vent dans les arbres, etc. Donc une grande subtilité dans les échos, entre les correspondances entre les sons, qui fait en effet qu'une destruction même partielle de la nature entraîne une disparition de cette musique.
J'ai participé à cette exposition justement avec un article dans son catalogue et avec un concert qui était une commande de la Fondation Cartier. Voilà. Mais par rapport à Bernie Sanders, il y a une petite différence, c'est-à-dire que bien sûr on peut avoir l'impression que la nature a une espèce d'orchestre spontané. Mais ça, c'est l'aspect extérieur et acoustique du naturel. Mais il y a aussi la nature en tant que loi interne qui gouverne notre pensée. Et ça, c'est plus difficile à mettre en évidence. Enfin, j'ai quand même proposé un certain nombre de méthodes. Et si la musique est naturelle, c'est pas seulement parce que nous écoutons ce qui est en dehors de nous et en dehors des villes, mais c'est aussi parce que c'est un besoin dont personne ne sait à quoi il sert. On sait bien que le langage sert à communiquer, mais à quoi sert la musique? Personne ne peut le dire.
Et donc, alors, quelle est votre hypothèse?
Pardon?
Quelle est votre hypothèse?
Mon hypothèse est que la musique et le langage se sont développés ensemble, conjointement, que peut-être la musique a précédé légèrement le langage. Le langage s'est spécialisé dans la communication, c'est-à-dire dans la vie pratique, et dans l'élimination des dangers, alors que la musique est restée immergée dans le naturel. C'est-à-dire que l'homme s'est développé avec la raison et le langage, et la musique a essayé de rattraper son retard, mais pas vraiment. Donc la musique est un art archaïque. Et en tant qu'art archaïque, elle est plus naturelle. Que des constructions rationnelles. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. Je voudrais pas me substituer à vous.
C'est très juste ce que vous dites. Oui.
Donc, la musique aussi a sa place dans la problématique que vous évoquez. J'ai d'ailleurs appelé une de mes œuvres Canopée, justement, pour souligner un de ces problèmes. C'est que dans les musiques naturelles, il y en a qui disparaissent très vite et qui sont encore inconnues.
La biodiversité musicale qu'il faut protéger.
Laurent Petit-Gérard.
Alors, d'abord, je voulais rappeler à François Vermaf, nous avons eu ici un extraordinaire académicien qui était Olivier Messiaen, qui lui, évidemment, a fait, comme vous savez, un travail très important sur les oiseaux. Et nous aimions bien, en musicien, nous raconter cette fausse anecdote, évidemment, histoire d'Olivier Messiaen se promenant dans la forêt, un petit rossignol fait « tudup ». Alors, Olivier Messiaen, note tudup, puis le rossignol continue avec tududu. Et alors, Olivier Messiaen, note tududu. Et puis finalement, le rossignol fait tourut. Et puis, Olivier Messiaen, note tourut. Et à ce moment-là, le rossignol vient sur son épaule et lui fait « Alors, Olivier, on enchaîne ?» Et c'est une histoire que lui-même racontait, je crois, après. Alors, moi, il y a une phrase que vous avez dit qui m'a beaucoup impressionné qu'en parlant des artistes, et vous dites « C'est langage capable de rêver et de réveiller le monde ». Évidemment très beau. Et il se trouve que vous avez eu aussi des fonctions très importantes au ministère de l'Enseignement. Vous avez même eu cette période que je crois savoureuse dans votre existence, qui a été d'être secrétaire d'État avec un ministre qui s'appelait Claude Allègre, et les quelques rares privilégiés qui, comme moi, ont pu vous voir imiter Claude Allègre avec la balle, les deux balles, etc. C'est un moment savoureux. Et il se trouve que c'est au niveau de l'enseignement que je voulais vous poser une question, parce que finalement, vous avez beaucoup parlé du désir, vous avez expliqué que le fait d'avoir compris quelque chose, d'être capable éventuellement d'essayer d'avoir une action, encore faut-il en avoir réellement le désir. Est-ce que finalement, il n'y a pas une chose qui manque actuellement au niveau de l'enseignement, et de l'enseignement des plus jeunes, c'est l'enseignement de la nature, l'enseignement de l'importance de la nature, et à ce moment-là, l'enseignement de tout ce qui est artistique pourrait se combiner. Mais on a l'impression que la sensibilisation des jeunes à la protection de leur planète est une chose qu'on ne voit, enfin, peut-être, pardon, je suis peut-être ignorant, mais qu'on ne voit pas vraiment dans les cursus éducatifs, alors que si on veut demain avoir, déjà il les faudrait aujourd'hui, mais encore plus demain, avoir des individus responsables et conscients de leur responsabilité dans leur vie quotidienne et dans leurs décisions, encore faut-il qu'ils y aient été sensibilisés, qu'ils le comprennent, et ça commence très tôt.
Écoutez, je trouve que paradoxalement, les choses ont beaucoup évolué positivement, parce que j'ai observé qu'avec justement la préparation de la conférence de Paris sur le climat, on avait demandé à toutes les écoles, collèges, lycées, de mettre en place des actions de sensibilisation à la nature. Et les jeunes, vraiment, sont sur une autre planète, sans jeu de mots par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il y a une préoccupation sur la protection de la nature, sur la lutte contre le gaspillage, sur la qualité du relationnel avec la qualité de vie qui les entoure, je trouve qu'il est absolument prégnante. Et ça, c'était un bon signe. Alors, j'ai lancé un appel à projet auprès de toutes les écoles, pour être très concrète, pour créer des milliers de 10 000. J'ai lancé 10 000 coins nature, potagers et coins nature dans les écoles. Et donc, j'ai vu arriver toutes ces réponses à cet appel à projet, mais c'est extraordinaire. Donc vous avez maintenant des écoles où il y a des ruches, où il y a des poulaillers, où il y a on retrouve les espèces locales, et les enseignants, je dois dire, sont très allants, parce que autour d'un coin nature, on peut faire toutes les disciplines. On peut faire la littérature, la dictée, le calcul, la géographie, l'histoire, et donc en plus c'est très fédérateur. Et il y a une autre filière qui se développe, ce sont les jardins thérapeutiques. Parce qu'on s'est rendu compte, dans les maisons de retraite, ou pour soigner la maladie d'Alzheimer, que le contact avec la nature faisait des merveilles, que le contact avec la prise en compte des saisons redéveloppait la mémoire. Et donc, il y a tout un mouvement qui s'est réorganisé pour diffuser, justement, ces coins nature, y compris à vocation thérapeutique.
Vous parliez dans votre propos de la nécessité de changer de regard. Et je pense que on pourrait citer alors je vais un petit peu revenir en pensant à cela, à ce que disait François Bernard Mache sur cette nature intérieure à l'intérieur de l'homme. Vous savez que là, il y a une phrase du philosophe Bacon au XVIIIe siècle qui disait « L'art, c'est l'homme ajouté à la nature ». Alors ça signifie en quelque sorte que déjà au XVIIIe siècle, on considérait l'art et l'homme comme deux entités en quelque sorte séparées. Parce que si on considère que l'homme fait partie intégrante de la nature, à ce moment-là, cette phrase veut dire l'art, c'est la nature ajoutée à l'art et du coup à la nature, et du coup ça perd son sens. Je pense que la condition de l'homme, et c'est un petit peu souvent ce qu'exprime l'artiste, je dirais, à travers sa sensibilité, c'est le fait que l'homme est à la fois, je dirais, lié et séparé. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans et hors. Il regarde, dès qu'il met, je dirais, cette position de maître ou de regarder les choses à l'extérieur de lui-même, d'une certaine manière, il se trahit, il ne se comprend plus, et je pense que précisément l'artiste essaye de rejoindre, c'est-à-dire d'arriver à relier les choses, à travers sa sensibilité de rejoindre les choses, et de ne plus avoir cette vision, je dirais, que l'on a par exemple sur le plan professionnel, scientifique, les ingénieurs dans telle ou telle catégorie, les scientifiques dans telle ou telle catégorie, avec cette difficulté de rejoindre les choses, et est-ce qu'il ne faudrait pas justement, je dirais, essayer d'avoir sur un plan de l'enseignement justement cette espèce de vision, d'une vision plus où tout s'intègre d'une certaine manière.
Oui, c'est juste. Ça me fait penser ce que vous me dites, puisque vous êtes sculpteur, je crois. Ça me fait penser à l'histoire de l'île de Pâques. Je ne sais pas si vous savez que pourquoi est-ce que la civilisation de l'île de Pâques s'est écroulée, ces magnifiques statues. C'est parce qu'ils ont totalement arraché la forêt. Et le jour où il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de civilisation, et la population a disparu. Et donc, vous avez raison de dire que à la fois l'homme et la nature, l'art et la nature, l'homme et la nature sont à la fois liés et séparés. Et pourtant, avec cet exemple invraisemblable, ils sont parfois aussi étroitement imbriqués.
S'il abandonnait cette idée de séparation, elle existe. C'est un fait, nous vivons cette condition d'être séparés. Et pourtant, nous sommes entièrement liés. C'est une situation paradoxale qui, en quelque sorte, fabrique notre destin et nous met constamment dans cette espèce de situation de conflit, je dirais. Mais du conflit avec la nature comme en conflit avec nous-mêmes. C'est ce conflit qu'on reporte sans cesse.
Oui, mais en même temps, oui, c'est très juste. Mais à lui sont les deux facettes de la même vérité. C'est-à-dire que l'homme fait partie de la chaîne du vivant. Nous faisons partie de cette chaîne du vivant. C'est-à-dire que on porte atteinte au vivant, contrairement à ce que pensent ceux qui imaginaient qu'en détruisant la nature, on pouvait à la fois s'enrichir individuellement et s'enrichir collectivement. C'est faux. Il peut y avoir des enrichissements individuels par la destruction de la nature, de la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de la terre. Il y a toujours un appauvrissement collectif. Donc l'homme fait partie intégrante de la chaîne du vivant. Et pourtant, il s'est opposé à la nature, parce que parfois, il faut quand même domestiquer la nature. Ça, c'est possible. C'est parfois absolument indispensable. Mais en même temps, dans la façon dont l'homme a combattu la nature, il en est souvent devenu la victime. Enfin, avec l'exemple que je viens de citer, c'est absolument flagrant. C'est-à-dire que dans le combat entre l'homme et la nature, si c'est l'homme qui gagne le combat contre la nature, en fait, c'est l'homme qui perd.
Voilà, Madame le ministre est avec nous depuis un peu plus d'une heure maintenant. Elle va nous quitter d'ici 2-3 minutes maximum. On va prendre une dernière question. Professeur Binet.
Oui, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous avez dit. Il y a un point qui m'inquiète, c'est dans cette relation art et nature, le peu d'éducation qu'il y a actuellement dans le domaine de l'art. Je suis pas du tout... J'ai été professeur à l'école du Louvre, mais ça c'est tout à fait autre chose. Mais je suis médecin. Et j'ai constaté l'ignorance, j'ai constaté l'immense ignorance de toute une génération, tout ce qui est artistique. Vous savez que devant un tableau, la moyenne de vision ne dépasse pas 2 minutes au Louvre. Autrement dit, ce sont des vitrines. On ne lit pas là, on regarde comme on regarde les vitrines du bon marché. Et ça, je crois que, puisque vous avez aussi eu un rôle important dans l'éducation, il faudrait que vous appuyiez votre effort sur l'importance de l'éducation, de l'art, dans la jeune génération. Alors, ils se laissent aller à tout ce qui vient, ce qui est très bien, parce qu'au moins, ils vont peut-être inventer des choses. Mais encore faut-il qu'ils se laissent aller. Voilà.
On va regrouper les deux autres interventions, celle d'Alain Charles Perrault et de Robert Werner, très court, s'il vous plaît, pour que la ministre puisse vous répondre également.
Oui, je voulais parler des modes de vie. La nature, la campagne, a besoin d'être entretenue par les agriculteurs, les paysans. Cependant, aujourd'hui, les gros investissements sont faits dans l'urbanisme des villes qui se développent au détriment des campagnes. Et dans l'art, on s'aperçoit que, alors que les artistes au XIXe siècle étaient à la campagne, aujourd'hui, le street art et l'art urbain se développent énormément. Ne croyez-vous pas que c'est une erreur de vouloir absolument développer des gigantesques villes et d'avoir une désertification de la nature, alors qu'aujourd'hui, dans les villes, qui étaient pour se réunir, pour se rencontrer, eh bien, les gens restent devant leurs ordinateurs et ne parlent plus entre eux. Il me semble que dans la campagne, il y a des relations humaines et sociales qui sont beaucoup plus fortes et qu'on devrait rééquilibrer, je dirais, les investissements pour que ces campagnes revivent. De toute façon, avec le numérique, c'est beaucoup plus facile, plutôt que de tout mettre dans les villes, dans les grandes villes comme le Grand Paris, etc.
Bien sûr, je crois qu'il faut absolument freiner l'exode rural. Et d'ailleurs, ça commence à être le cas, grâce sans doute à la possibilité de travailler à distance, puisque pour la première fois, vous savez que Paris et la région parisienne ont perdu des habitants au profit des villes régionales où la qualité de vie s'est avérée beaucoup, beaucoup plus agréable et où le niveau de vie, en plus, pour le même salaire, est beaucoup plus intéressant. Donc je crois que ce mouvement est engagé, en tout cas dans les pays industrialisés, dans les pays les plus pauvres. Malheureusement, on a un exode rural accéléré, parce que comme il n'y a pas l'électricité dans les villages, les jeunes fuient les villages pour aller vers les villes, d'où le défi absolument crucial de l'accès, notamment des villages, notamment en Afrique, des petits villages à l'énergie solaire.
Une dernière intervention avec Robert Werner.
Vous recevez sans doute, madame, et merci de si bien parler du paysage, beaucoup de courriers concernant le paysage et le problème des éoliennes. Il se trouve qu'entre autres, je suis administrateur de la Société pour la protection des paysages, et d'ailleurs rédacteur en chef également du site des monuments, et nous ployons sous le courrier de gens malheureux à cause de la prolifération abusive de l'éolien. En co-visibilité de monuments historiques, de beaux villages, sans qu'on demande souvent... Non, pas l'autorisation, mais les gens sont mis devant le fait accompli. Alors il y a des gens qui découvrent des éoliennes alors qu'ils n'en voulaient pas, et d'autres... Bon, c'est très compliqué ce problème-là, et je trouve qu'il faut évidemment de l'énergie renouvelable, mais je trouve que ça ne se passe pas très bien, et les gens sont trop mal informés quand ils découvrent devant eux une nuée comme ça d'éoliennes. J'étais à Lignan-en-Barrois l'autre jour, mais c'est hallucinant. C'est n'importe quoi.
Non, mais
le Cap Corse, maintenant, vous arrivez au Cap Corse, vous voyez de l'éolien. Les Italiens qui étaient devant moi l'autre jour ont bousculé, ont photographié, ont dit « Regardez ça, c'est pas possible, des choses comme ça. »
Moi, je trouve belles les éoliennes du Cap Corse. Vous voyez, ça m'a pas empêché de créer un parc naturel au Cap Corse.
Oui, c'était très bien.
Il y a une beauté de ces éoliennes. On trouve beau. La Tour Eiffel, elle devait être abattue aussi par tous ceux qui étaient détracteurs de la Tour Eiffel.
Ici, malheureusement.
Ici aussi.
Ils ont voulu la détruire.
Non, mais j'évoquais simplement la prolifération, c'est ça.
Oui, donc, mais il faut effectivement que le dialogue soit respecté, que la démocratie soit respectée. Ensuite, il peut y avoir aussi des nuisances sonores, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on sort d'une époque où, et qui n'est plus le cas aujourd'hui, réglementairement, où un agriculteur, par exemple, qui avait un champ, pouvait donner son champ en concession, donc percevoir aussi un loyer à un opérateur qui installait l'éolienne sans forcément consulter ni la mairie. Donc ça, c'est terminé maintenant. C'est terminé et aujourd'hui, il faut une étude d'impact, une enquête publique, une inscription en mairie, etc., pour justement faire en sorte que les choses soient correctement construites.
Laurent, il est temps de remercier le ministre.
D'abord, je rappellerai, pour clore ce sujet, une réflexion que les académiciens qui sont là depuis longtemps, comme moi, se rappellent peut-être de notre cher Mime Marceau, un jour où nous parlions des éoliennes, et qui avait dit « Oh, mais s'il y a un problème avec les éoliennes, il n'y a qu'à les enterrer comme les lignes à haute tension », ce que je trouvais très charmant de sa part quand on le connaissait. Voilà. Évidemment, on parlerait des heures. Je dois vous dire qu'à vous entendre, cher Ségolène Royal, on se prend à regretter que la vie politique n'ait jamais faite que vous ayez été ministre de la Culture, parce que vous auriez très certainement été un très bon ministre de la Culture. et qu'en plus, c'est un ministère dans lequel il serait souhaitable que des gens de tout premier plan, qui aient un destin national possible, se disent que ce serait bien qu'ils soient là aussi, car c'est une très grande cause. En tout cas, nous sommes très sensibles et j'espère que, aussi, vous partirez d'ici bien convaincu que dans les combats que vous allez avoir à mener, notamment pour l'environnement, l'art les problèmes, les artistes peuvent être une extraordinaire caisse de résonance et qu'on sera toujours prêt au dialogue avec vous si vous pensez qu'à un moment donné, notre participation peut être utile. Alors je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi beaucoup vos équipes et celles de l'Académie qui ont travaillé et œuvré pour qu'on puisse organiser ça, ce qui n'était pas simple entre les agendas de tout le monde. Je remercie mes confrères, consoeurs qui ont décidé que, bien que ce soit une séance normalement de vacances, tout le monde, le maximum, allait venir. Et on se réjouit de garder avec vous un contact fructueux et très amical. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.